Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Radio Grand Ciel, au micro Yves Bastide pour l'émission « Si ma mémoire est bonne ». Je voudrais vous parler aujourd'hui de quelqu'un dont vous avez immanquablement entendu le nom, de Greta Garbo. Greta Garbo, elle s'appelait en fait Greta Gustafsson. Elle est née en 1905 dans un des quartiers pauvres de Stockholm. Et son père avait une situation très, très modeste jusqu'au jour où, tombé malade, il a perdu cette situation. En 1914, il est hospitalisé. Greta Garbo, enfin sa fille, qui n'est pas encore Greta Garbo, sa fille lui rend visite à l'hôpital et se rend compte à quel point la misère peut être une source d'humiliation. Et toute sa vie, elle restera hantée par le spectre de la pauvreté. Son père meurt en 1920, il a 46 ans, et les quelques années que Greta Garbo a passées à l'école sont vite oubliées parce que c'est comme ça, il faut gagner sa vie. Sa mère fait un peu des travaux de couture. Elle va exercer différents métiers, notamment un truc qui ne s'invente pas peut-être. C'est elle qui est chargée de passer la mousse sur les joues des clients avant qu'un barbier les rase. Et puis, première étape dans sa vie, elle devient vendeuse dans un grand magasin. Et là, ce grand magasin, comme c'était la mode à l'époque, en éditant un catalogue, veut mettre des photos. Et Greta Garbo est choisie, plutôt Greta Gustafsson, est choisie pour présenter les chapeaux. Le même grand magasin va faire un petit film de propagande dans lequel joue déjà la future Garbo. Mais Elle sent bien que sa vie n'est pas là et elle veut à tout prix faire du théâtre. Elle entre à l'École royale d'art dramatique de Stockholm et, par hasard, un des grands metteurs en scène de l'époque, Morris Stiller, Mogé, comme on disait dans l'intimité, qui était ultra célèbre en Suède et dans le monde pour avoir tourné un film qui s'appelait Eroticon. Et Stiller va lui proposer son premier rôle en 1924, La légende de Gösta Berling. La légende de Gösta Berling, pour des Suédois, c'est très significatif. C'est d'abord tiré du livre de Selma Lagerlöf, qui a eu le prix Nobel de littérature grâce à ce livre. Le film a un énorme succès, pas tellement en Suède, mais en Allemagne. Et c'est comme ça que Greta Garbo, qui est déjà devenue Garbo, parce que c'est Stiller qui l'appelait Garbo. Pourquoi Garbo ? En espagnol, il paraît que cela signifie la grâce, l'élégance. Enfin, on retrouve donc Greta Garbo à Berlin, où elle va tourner sous la direction de Pabst, George Wilhelm Pabst, La rue sans joie, un énorme succès de cinéma. Et c'est là aussi, deuxième tournant important dans sa vie, elle est invitée à New York avec Moritz Stiller. Quels étaient les rapports de Garbo et de Stiller ? On n'a jamais su exactement. Ont-ils été amants ? Tout le monde le disait, le supposait, le chuchotait. Ni l'un ni l'autre n'en a parlé. Et à New York, lorsque Garbo arrive, elle n'est pas très connue. La légende de Gösta Berling ou la rue sans joie n'ont pas vraiment traversé l'Atlantique. Et elle tourne un premier film qui s'appelle Le Torrent. Un deuxième film, La Tentatrice. Déjà, rien que dans les titres, on sent percer ou se mettre en place ce qui sera le mythe de Greta Garbo.
Till kläder, till pont, till luden, min till julen. färgad på vintern, den blir långhörd. Fetande gåste passar jag på vintern, den blir långhörd. Ja, gärna så får du hudan min till foder, din underluva, din fala, lilla laja. Ja, gärna så får du hudan min till foder, din underluva, din fala, lilla laja.
Et nous arrivons en 1926. 1926 est le tourne sous la direction de Clarence Brown, un film qui s'appelle La chair et le diable. Son partenaire est John Gilbert, qui est gentil, séducteur, coureur, buveur et énorme vedette aux États-Unis. Entre les deux, c'est le coup de foudre. Gilbert Garbeau, au point que on ne les appellera plus ni Gilbert ni Garbeau, mais les Gilbeaux. Et dans La chair et le diable, il y a une scène qui a suscité beaucoup de commentaires. C'est la scène de la communion à l'église. Gilbert boit dans le calice. Il tend le calice à Garbeau qui tourne le calice pour imprimer ses lèvres à l'endroit où son amant vient de embrasser la coupe. C'est la gloire est immense. Et Gilbert demande Garbeau en mariage. Et là, début du personnage de Garbeau tel qu'on le connaît à travers ce qu'on a raconté les témoins. Garbeau dit oui, Garbeau dit non, Garbeau dit oui. Et Gilbert commet une faute irréparable aux yeux de Garbeau. Il annonce son mariage. Et le jour du mariage, Garbeau refuse de quitter sa maison. Le mariage est annulé le jour même de sa célébration. Elle va entre-temps tourner Love. Alors Love, amour si vous voulez, c'est tiré de Anna Karénine de Tolstoï. Elle joue évidemment avec John Gilbert. Et les affiches du film font un jeu de mots sur Gilbert and Garbeau in love, ce qui peut se traduire Gilbert et Garbeau amoureux. Arrive l'année 1929. Et là, c'est un premier bras de fer entre Garbeau qui sait ce qu'elle veut et Louis B. Mayer qui dirige les studios. Pendant 5 mois, Garbeau va faire la grève du film. Meyer est persuadé qu'elle va rabattre ses prétentions. Elle ne bronche pas. On lui rappelle que son permis de séjour se termine au mois de juillet. Elle ne bronche pas. Et en juin, elle obtient satisfaction avec $260,000 par an. C'était donc une femme au caractère bien trempé. Ensuite, tout à l'heure, je faisais allusion à la pauvreté dans laquelle elle a vécu. Elle s'est jurée de ne plus jamais être pauvre. Elle garde son argent, elle le place intelligemment. L'argent rapporte, c'est une des femmes les plus riches des États-Unis. À côté de ça, elle ne fait aucune dépense superflue, elle ne va jamais dans les soirées, elle ne va jamais aux premières des films. Elle est toujours très ponctuelle au studio, très professionnelle. Elle connaît son texte parfaitement. Et peu à peu, on va commencer à parler de son côté sphinx, de son côté mystérieux. Sa fuite devant la publicité, sa fuite devant les rencontres officielles, lui valent une réputation de quelqu'un qui refuse de voir les gens. À ce propos, on a beaucoup cité une phrase, d'ailleurs, qu'elle aurait dite, mais qu'on retrouve aussi dans un de ses films. « I want to be alone. » »« Je veux être seule. » En réalité, elle a dit « I want to be let alone. » Ce qui peut se traduire « Je veux qu'on me laisse seule. »« Je veux qu'on me laisse tranquille. » Et nous arrivons maintenant à une étape décisive qui a coûté leur carrière, beaucoup de comédiens, l'arrivée du parlant. L'arrivée du parlant a coûté à beaucoup de comédiens un préjudice considérable. Beaucoup ont disparu de la scène, de l'écran, pardon. Jean Gilbert en particulier. Et voilà qu'on annonce le premier film dans lequel Greta Garbo va parler. Alors sur les affiches, il y avait marqué Garbo Talks. Garbo parle. Et dans ce film, Anna Christie, au moins plus 16 minutes après le début du film, on voit apparaître Garbo et les spectateurs attendent. Elle arrive, plus ou moins vacillante, et avec une voix extraordinaire, sa première réplique au cinéma parlant, « Donne-moi un whisky et sois paradin. » Et la partie est gagnée. La partie est gagnée. Garbo va continuer une carrière éblouissante au cinéma parlant comme elle l'a fait au cinéma muet. Nous arrivons en 1933. Elle tourne un film qui s'appelle La Reine Christine. Un de ses plus grands succès au cinéma, que si vous avez l'occasion de revoir à travers un DVD ou autre, je vous, me permets de vous conseiller de revoir. La Reine Christine, c'est un film de Ruben Mamoulian qui raconte de façon romancée la vie de cette reine suédoise qui, protestante au départ, s'est convertie au catholicisme, a abdiqué et a fini sa vie à Rome. Et là, Garbo a un geste extraordinaire. Elle exige à ses côtés la présence de Jean Gilbert avec qui elle a rompu 6 ans auparavant. Au départ, on pensait que ce serait Laurence Olivier qui ferait le rôle. Garbo s'est arrangé pour que ce soit Jean Gilbert. Et la dernière image du film, on voit Garbo, cheveux au vent, à la proue d'un navire qui l'amène vers Rome. Pour tous ceux qui ont vu le film, c'est resté une image inoubliable. Elle a 26 ans, elle est millionnaire, elle est l'actrice la mieux payée d'Hollywood, et elle va continuer sa carrière. Elle reprend d'ailleurs, c'est le seul cas que je connaisse dans l'histoire du cinéma, elle reprend le rôle d'Anna Karénine, sous son vrai titre Anna Karénine, avec Robert Taylor. Non, pardon. Elle reprend, c'est le seul cas, tu peux reprendre. C'est le seul cas que je connaisse où une actrice est tournée une version à la fois muette et parlante du même film. Elle va également tourner La Dame aux Camélias avec comme metteur en scène Georges Cukor, avec Robert Taylor, Lionel Barrymore. En 1939, autre nouveauté pour les studios, elle tourne sa première comédie et l'affiche mentionne Garbo rit. Le film, c'est Ninotchka. Ninotchka de Ernst Lubitsch, aux côtés de Melvin Douglas, qui raconte comment une commissaire politique russe arrive en France et se laisse peu à peu séduire par la vie en Occident. Alors, ensuite, devant le succès de Ninotchka, elle va tourner un dernier film, La femme aux deux visages, sorti en 1941, qui n'a aucun succès, qui est descendu par la critique. Et alors, même si elle ne l'a jamais dit officiellement, Garbo ne reparaîtra jamais plus devant un écran.
Adam var den första man i uskyldigestan. Herren lot ham en kvinna för ära. Tog ett ribben därut, gjorde därut av en brud. Förde henne till Adam, var beprydet utav Gud. Thank you. sin jomfru så skjønn. Da begynte hans hjerte til å brenne, han da snarlig oppstod og til Herren framgår, har takket ham for den brud som hadde gledet ham så. Høytidsdag det er, og så ønsker jeg eder til lykken. Nå til kirken har gått, og til sammen har stått, for de ekte bånd at knyta, som ei oppløses nå.
Garbeau va abandonner le cinéma. Elle n'a jamais dit officiellement qu'elle ne reviendrait jamais au cinéma. Mais nous sommes en 1941. Elle va vivre pendant presque 50 ans, jusqu'à sa mort en 1990, en passant son temps à fuir les photographes, à fuir les admirateurs, à fuir les journalistes. Quand on pense que c'est plus de la moitié de sa vie qui s'est passée à cette chasse, qui s'est passée à éviter le moindre contact avec des gens qu'elle ne connaissait pas, on se dit que le destin de Garbeau était quand même assez exceptionnel. Alors comment mène-t-elle sa vie? Oh, elle a des rencontres amoureuses, notamment avec le chef d'orchestre polonais Léopold Stokowski. Elle a, à cette époque-là, 32 ans. Stokowski voudra tirer parti de... Rien. Stokowski voudra tirer parti de cette liaison pour se faire un peu de pub, et là, c'est l'erreur fatale. Ils se séparent. Elle aura encore une liaison avec un chef d'entreprise qui s'appelle Schnee, mais en réalité, personne n'arrivera vraiment à la séduire en profondeur et durablement. On peut signaler qu'en 1951, elle reçoit la nationalité américaine. Elle mène une vie discrète, quoique reçue par les plus grands. Une anecdote dans sa fuite éperdue devant les inconnus, si quelqu'un l'arrêtait dans la rue en lui disant « Est-ce que vous êtes Greta Garbo ?» Elle répondait « Dernière, fatiguée, sometimes, parfois. » À l'abri du besoin financièrement, elle achète des tableaux, elle achète notamment deux Renoirs, un Bonnard. Signalons pour la petite histoire qu'elle est reçue en 1963, elle est reçue à la Maison Blanche, 9 jours avant l'assassinat de John Fitzgerald Kennedy. Fréquemment, on parle de son retour à l'écran. On dit que Visconti voulait la voir dans La recherche du temps perdu, qui n'a jamais tourné. Ni l'un ni l'autre ne l'a confirmé, d'ailleurs. On sait que Billy Wilder a essayé de la faire jouer dans son film Boulevard du Crépuscule. Finalement, il proposera le rôle à Gloria Swanson. Il raconte une histoire qui est très intéressante. Il demande à Greta Garbo, « Mais qu'aimeriez-vous faire comme rôle ?» Elle a cette réponse, « Clown ». Wilder lui dit, « C'est pas possible, vous ne pouvez pas jouer un clown. » Et Garbo lui dit, « Si. » Elle ne l'a jamais fait, peut-être que Wilder s'en est souvenu dans « Boulevard du Crépuscule », à un moment donné, il fait jouer à Gloria Swanson une imitation de Charlie Chaplin. Alors, Garbo continue. Elle a réussi à imposer sa solitude. Et une chose qui est assez intéressante, ses voisins, les commerçants qui habitent autour, ont joué le jeu. Personne n'a jamais dit où elle habitait. Vraiment. Et je voudrais, pour conclure simplement, vous parler de Greta Garbo à propos des Oscars. Vous savez, c'est ces petites statuettes qu'on remet tous les ans à un acteur et à une actrice. Garbo était, comme on dit de façon stupide, nominé à plusieurs reprises. Elle était nominée en 1930 pour son rôle dans Anna Christie et pour son rôle dans le roman de Marguerite Gauthier. Elle n'a pas eu l'Oscar, c'est Norma Scherrer qui l'a eu. Elle a été nominée pour Ninotchka en 1940, c'est l'année où Vivian Leigh remporte l'Oscar pour Autant on emporte le vent. Garbo est toujours passé à côté des Oscars, même si, comme cela se fait parfois, lorsqu'on s'est rendu compte que elle ne reviendrait probablement plus au cinéma et qu'elle avait quand même contribué de façon exceptionnelle à l'éclat du 7e art, on lui a donné un Oscar d'honneur en 1955. L'Institut du film américain a fait un classement en 1999 sur les 50 légendes du cinéma américain et Garbo arrive en 5e position. Derrière tout de même Catherine Hepburn, Bette Davis, Ingrid Bergman ou Audrey Hepburn. Donc, quelque part, le cinéma lui a reconnu des qualités. En signalant que Tennessee Williams a voulu la faire jouer dans Un tramway nommé Désir. Quelques artistes ont utilisé son nom, notamment Magali Noël dans Greta Garbo ne se taira pas ce soir, Béjart dans Divine, un ballet en 1961. Il y a un groupe de pop électronique, le Garbo Group. Et dernier avatar de Greta Garbo au cinéma. Le film qui a eu tellement de succès avec Jean Dujardin, The Artist. Aux côtés de The Artist, il y a une comédienne, Béatrice Bejo, qui d'ailleurs a eu un Oscar à Hollywood. Et Béatrice Bejo, c'est certainement une inspiration directe de Greta Garbo. Que pensait Garbo de tout ce qu'on pouvait écrire sur elle, alors que dans la vie courante, elle était drôle, spirituelle, enjouée, gaie, notamment lorsqu'elle faisait des croisières sur le yacht d'Aristote Onassis aux côtés de Maria Callas. Garbo a toujours dit « Je déteste tout ce qu'on a écrit à mon sujet. » Et lorsqu'elle meurt en 1990, avant que ses cendres soient rapatriées en Suède, elle est restée à jamais celle qu'on a appelée la divine, une créature céleste et inaccessible, les mots sont de François Mauriac, inaccessible certainement, a-t-elle été heureuse, personnellement? Nous n'aurons jamais la réponse, mais quelque part, j'ai envie de dire oui, elle a été heureuse parce qu'elle a mené la vie qu'elle voulait, comme elle le voulait, avec sa force de caractère, son immense talent, son rayonnement sur l'écran qui ne s'explique pas parce qu'il n'y a pas d'explication logique. Oui, je pense que Garbo a été heureuse. Et c'est sur ce mot-là que je voudrais vous quitter pour aujourd'hui en vous remerciant de m'avoir écouté.
Habla de sana y caro me ven a ser y nada.
festa och häng i noe venaste lilla bunni. Det var han ungan Lulli, han talade ord på sant. Nu ser jag åt i heges fanns i herrmåhera i skavlan.
Radio Grand Ciel, 106.8 à Chartres. Thank you.